Voilà, dans le bon sens, ça ira mieux. Voilà, nous sommes dans ce joyau de l'Écriture, 1 Corinthiens, au chapitre 13. Nous avons vu la semaine dernière que c'est dans la banalité de comportements simples que l'amour va se manifester. Ou plus exactement, que l'amour va se vivre. Loin des exubérances, loin des extases, loin du spectaculaire. Alors Paul ne condamne pas tout cela en bloc, hein, il ne le rejette pas. Cependant, toutes ces expériences extraordinaires se retrouvent dans les autres religions, hein, les pratiques cultuelles qui avaient cours, nous l'avons vu, à l'époque de Paul. Et toutes ces pratiques extraordinaires, elles sont fondamentalement négation et évasion hors de la banalité et hors du quotidien. L'Église, à l'époque de Paul, mais l'Église aujourd'hui peut être tentée par cette formule d'offrir aux frères et sœurs qui viennent au culte le dimanche matin une évasion du quotidien et de sa banalité. Or, selon Paul, la vraie foi est au contraire une prise en compte de cette banalité du quotidien. L'amour est d'abord et surtout présent et vécu dans des comportements simples de la vie de tous les jours. Alors c'est étonnant que Paul donne ses explications sur l'amour dans le cadre d'un enseignement sur les dons, sur les manifestations spirituelles. Quel est son objectif? Paul met ici en perspective ses dons avec l'amour. Dans une église où la recherche des performance dans les dons et dans les manifestations spirituelles est devenue une sorte de compétition entre les frères et sœurs. Voulez-vous vous lancer dans la compétition, semble leur dire Paul? Alors choisissez au moins ce qui est éternel et non ce qui est partiel et provisoire. Paul s'explique. Lisons 1 Corinthiens 13, les chapitres les versets 8 à 13, on est page 238 dans les Bibles qui sont proposées à l'entrée. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. La première chose que Paul dit dans cette mise en perspective de l'amour par rapport au, ou des dons par rapport à l'amour, c'est que nous sommes dans le règne du provisoire. Nous avions vu que les signes miraculeux apparaissent peu fréquemment dans la Bible. Il y a des moments bien précis du récit. À la sortie d'Égypte, alors que Dieu veut démontrer qu'il a choisi le peuple d'Israël pour qu'il soit son peuple. Il le délivre avec puissance, avec beaucoup de signes miraculeux, hein, dont l'Égypte a fait les frais. Et ensuite, ces signes miraculeux vont se prolonger tout au long de la traversée du désert pendant 40 ans. Et puis ils vont cesser. De nouveaux signes miraculeux vont apparaître au moment où émerge le mouvement prophétique avec Élie et Élisée alors que la royauté et la prêtrise ont fait faillite dans leur mandat. Dieu montre qu'il confie désormais aux prophètes la charge de rappeler et d'apporter sa parole avec autorité, avec puissance. Il y aura quelques signes, prodiges, miraculeux du temps de Daniel et de ses amis, comme pour indiquer que même s'il est en captivité, son peuple Israël reste le peuple de Dieu. Il y a ces signes miraculeux qui sont donnés par Dieu avec la venue de son Fils Jésus-Christ. Ces signes qui sont là pour appuyer son identité et sa mission de salut. Je relisais encore ce matin ce passage où les amis amènent ce paralytique à Jésus. Et Jésus lui dit, va, tes péchés sont pardonnés. Ce n'était pas vraiment pour ça qu'il était venu. Et les gens qui connaissent la loi, les scribes, les responsables religieux se disent dans leur cœur, mais il se prend pour qui celui-là? Pour pardonner les péchés? Et Jésus leur dit, je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Et pour vous le démontrer, je vais demander à ce paralytique de se lever et marcher. Alors qu'est-ce qui est plus facile de dire, lève-toi et marche, ou tes péchés sont pardonnés? Alors pour que vous soyez certains que moi j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et marche. Et le paralytique se lève, il prend son lit et il sort. Aucun responsable religieux de l'époque n'a jamais réussi à faire cela, n'est-ce pas? Ces signes étaient là pour appuyer le ministère de Jésus-Christ. Et puis, ces signes miraculeux vont se poursuivre au temps des apôtres pour soutenir la naissance de l'Église et le mouvement missionnaire. Et on remarque dans chacune de ces situations que le miraculeux ne perdure pas. Il est donné pour un temps, souvent par le ministère d'une ou de plusieurs personnes, par le ministère de Moïse, d'Élie et d'Élisée, de Daniel, de Pierre, de Paul et d'autres apôtres. On a des témoignages historiques. Au deuxième et troisième siècle, la Didachée, qui est le premier écrit chrétien extra-biblique qu'on connaît, qui était donné un peu comme un manuel pour les églises, pour la vie et la foi, mais aussi Justin Martyr, Irénée, Celse, qui lui est un ennemi, un adversaire du christianisme, mais aussi Tertullien, Origène, Cyprien, des pères de l'Église, et d'autres qui affirment que les dons miraculeux continuent d'étonner et de convaincre les gens. Mais Chrysostome et Augustin constatent, dès le IVe siècle, que ces phénomènes, je cite, ces phénomènes se produisaient alors, maintenant plus. Ils ne réapparaissent pas au moment de la réforme. Ça semble donner raison à celles et ceux qui affirment que le temps du miraculeux est définitivement révolu dans l'Église. C'était une période provisoire utile au lancement, à l'enracinement de l'Église. Ils ne sont plus nécessaires et peut-être même plus souhaitables aujourd'hui. Mais vous avez remarqué ce que nous dit le texte du jour? Ils cesseront le jour où la perfection apparaîtra. Clairement, ils cesseront à l'avènement de Jésus-Christ. Alors on voit, ici et là, dans nos églises ou à l'autre bout du monde, le Seigneur répondre miraculeusement aux prières de ses enfants, parfois de manière spectaculaire, par une guérison, même par des résurrections, mais parfois aussi de manière plus discrète. Et on pourrait maintenant s'arrêter ici et échanger pour le reste de la journée ou peut-être même de la semaine des témoignages vrais, certains, d'intervention divine, spectaculaire ou non. Pour le spectaculaire, je pense à ce groupe de missionnaires qui a été protégé pendant son bivouac par des anges alors qu'ils étaient en danger d'être attaqués par un groupe armé. Et ce groupe armé a rendu témoignage après qu'il n'a pas pu attaquer ce groupe de missionnaires parce qu'il y avait des hommes resplendissants qui montaient la garde. les missionnaires n'en étaient même pas conscients. Moins spectaculaire, des missionnaires partent en brousse et leur voiture tombe en panne. Alors ils ouvrent le capot, évidemment tout ce qui se passe là-dessous, ils n'y comprennent pas trop grand-chose. Et pour ne pas rester coincés au fin fond de nulle part, ils décident d'imposer les mains à la voiture. Ils posent les mains sur le capot et ils demandent l'intervention divine. Ils montent dans la voiture, ils démarrent et ils rentrent chez eux. Alors je ne sais pas si théologiquement c'est très orthodoxe, hein, d'imposer les mains au capot de la voiture, mais ça semble efficace. Et pourtant, dit Paul, tout ceci n'est que provisoire. Après le retour de Jésus, on n'aura plus besoin du don de prophétie. Parce que, dit-il, nous connaîtrons parfaitement, comme Dieu nous connaît parfaitement. Et on n'aura plus besoin du don de guérison, là où il n'y a plus ni maladie, ni mort. Peut-être on y soupire à ce temps-là, hein, en cette saison où on se souhaite les bons vœux, et surtout la santé. Et on sait combien elle est précieuse, n'est-ce pas? Et ceux qui sont touchés dans leur santé le savent plus que les autres. Nous vivons donc dans le provisoire. Il en est ainsi, hein, de tous les dons. Nous vivons dans le provisoire. Nous vivons aussi dans un temps où règne le partiel. Notre compréhension est partielle, comme la compréhension du monde d'un enfant est partiel. Il m'est arrivé un truc assez extraordinaire cette semaine. Mon fils, Mathis, 12 ans, qui décidément ne doute de rien, m'a questionné au cours d'un repas. C'était un dîner cette semaine, en début de semaine. Hein. « Papa, tu ne me l'as jamais dit, mais j'aimerais que tu m'expliques maintenant ce qu'est la cantique. » La cantique. Alors, pas les cantiques, hein? Pas le cantique, la cantique. Alors, vous avez plus d'expérience que moi, et j'imagine qu'il est arrivé un moment dans votre vie où vous avez dit à votre fils, « Mon fils, viens, assieds-toi près de moi, tu es en âge, il faut que je t'explique la cantique. » J'ai failli avaler ma soupe de travers. Mais qu'est-ce que je vais lui répondre? Alors dans ma tête, vous voyez, le petit machin s'est allumé. Alors, voilà les réponses possibles. Réponse A, Mathis, on ne dit pas de gros mots à table. Réponse B, écoute Mathis, je t'expliquerai quand tu seras en âge de comprendre. Au moins, ça me laisse un peu de temps pour me renseigner, n'est-ce pas? Et ce fameux âge pour comprendre, il est souvent utilisé avec les enfants, hein, pour se débarrasser d'une question difficile ou gênante. Je t'expliquerai plus tard. Tu ne comprendras pas. Pardon? Demande à ta mère, ouais. Et là, c'était papa, explique-moi la cantique. Alors là, je l'ai regardé, j'ai dit, mon pauvre Mathis, je ne sais pas. Je ne sais pas t'expliquer la cantique. Notre compréhension du monde peut être partielle, hein. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Il faut que je me penche là-dessus, hein, sérieusement, pour pouvoir prendre mon fils à côté de moi et lui dire, Mathis, je vais enfin t'expliquer la cantique. Ça nous ramène à la modestie, hein. Mon papa sait tout, pas tout de tout, hein. Notre compréhension est aussi partielle des vérités bibliques. Et ça devrait nous ramener un peu plus de modestie dans nos affirmations. Et Paul nous explique pourquoi. Notre compréhension actuelle n'est que partielle. Comme si nous voyons les réalités spirituelles au travers d'un miroir. Alors dans l'Antiquité, ils n'offraient pas la netteté des miroirs modernes. Hein. Ils étaient faits sur du métal poli et on y distinguait surtout les principaux contours, mais pas forcément les moindres détails de son image. Il y a bien des choses qui nous étonnent dans la parole comme il y a des choses qui nous étonnent dans le monde. Denis était étonné cette semaine en regardant les photos de Hubble. Quand je les ai vus en 4K à la Cité de l'Espace à Toulouse, j'avais les larmes qui coulaient des yeux. Et sur mon écran d'ordinateur actuellement, j'ai une photo d'un de ces appareils, hein, des photos qu'il a fait de Jupiter et de ses lunes. On les voit suspendues dans l'espace. émergeant des ténèbres, une face éclairée par le soleil. Et on se demande quelles sont les forces qui les gouvernent, qui les maintiennent, qui leur donnent leur direction. Comment se fait-il qu'elles continuent à être ordonnées autour du soleil, à rester l'une près de l'autre, à avoir des mouvements coordonnés? C'est tout simplement prodigieux. Moi, je suis interpellé, émerveillé. Qu'est-ce qui permet à Dieu, quelle puissance lui permet d'accomplir ses prouesses? Et il en est de même avec les vérités bibliques. Nous n'en percevons souvent qu'une partie, une partie fragmentaire, car la révélation de Dieu est loin d'être complète dans bien des domaines. D'où cette variété d'avis, hein, dans nos églises et même au milieu de nous, sur l'utilisation des dons dans l'église, sur l'origine du monde, 7 jours de 24 heures ou pas, sur le retour de Jésus-Christ, avant, pendant, au milieu de la grande tribulation. Quelqu'un le sait avec précision, de manière définitive, sur la fin des temps? Est-ce que vous pouvez me donner la chronologie exacte et les détails exacts sur la fin du temps, sur tous les détails de ce qui se passera dans le ciel, sur l'enfer, sur le rôle de la femme dans l'église? Et j'en passe. Et on en profite largement pour se disputer entre nous autour de ces questions. En tout cas, c'est ce que l'Église semble être douée pour cela. Parce que il y en a toujours dans l'Église qui sont moins ignorants que d'autres et qui cherchent à le faire savoir. Et les disputes des Corinthiens, Corinthe n'échappait pas à cela, sont, selon Paul, comme des babillages d'enfants. Alors là, vous avez probablement la même expérience que moi. Vous avez déjà assisté à des disputes d'enfants où chacun des deux camps défend âprement une opinion qui échappe complètement d'abord à leur compréhension et qui ensuite vous paraît, à vous qui êtes adulte, si dérisoire, si futile. Paul nous dit pourquoi c'est comme ça. Nous voyons au travers d'un miroir, ou littéralement dans le texte il dit nous voyons d'une manière énigmatique. Même après les lumières et les explications des théologiens et des exégètes au travers des siècles. Et il faut se méfier de ce qu'on fait avec des fragments. Avec Géraldine, on a habité une année à Genève. Et on en a profité pour aller voir le Muséum d'Histoire Naturelle. Et d'un seul coup, on s'est trouvé face à une vitrine où on nous présentait Lucie. Vous connaissez Lucie? Notre, paraît-il, lointaine ancêtre qui a quelques milliers ou millions, les zéros là, à partir d'un certain moment, ça devient difficile à compter, hein. Et donc, il nous la présentait là en grandeur nature, hein, cette petite bonne femme velue, voilà, qui fait 1m20 ou quoi. Hein. Et donc, je me suis dit, ils ont retrouvé un squelette ou quoi? Non, pas du tout. Quelques fragments, et de ces quelques fragments, ils tiraient la personne qui était devant nous. Et pour d'autres, des animaux, on retrouve quelques fragments d'os, et puis on vous présente un animal énorme, on est capable de vous dire la couleur qu'il avait, le nombre de dents, enfin bref. Je trouve ça extraordinaire, ce qu'on est capable de tirer de quelques fragments. Alors il faut faire attention, hein, toutes les théories qui sont construites sur des fragments, dans la science on se rend compte, on est forcé de réviser régulièrement, hein, les choses qu'on avait considérées comme acquises, sûres et certaines, parce que les nouvelles découvertes nous montrent qu'on s'était un petit peu trompé. Il en sera de même pour nous. Le temps viendra où nous verrons et nous comprendrons distinctement et complètement. Où les choses ne seront plus partielles comme elles le sont aujourd'hui. Alors toutes nos disputes théologiques nous paraîtront bien puériles. Parce que ce qu'il y a devant nous, c'est le règne éternel. Et la foi saisit le salut comme déjà accompli. L'espérance s'élance vers la portion du salut qui reste à accomplir par le retour de Jésus. Paul démontre la supériorité de l'amour sur les dons, mais encore sur les vertus chrétiennes. Les dons seront abolis, par la venue de l'état parfait. Mais ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour, demeureront dans l'état parfait, demeureront dans l'éternité. Alors ça pose une difficulté. Parce que la foi devrait faire place à la vue dans l'état parfait, c'est en tout cas ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, et l'espérance devrait faire place à la possession selon Romains 8. Alors comment résoudre cette difficulté? Puisque la foi débouche sur la vue et l'espérance sur la possession, comment ces deux choses vont-elles perdurer dans l'éternité? Alors, la meilleure manière de résoudre cette difficulté, c'est de considérer, en tout cas c'est l'explication que nous donnent les exégètes et les théologiens, et ma foi, c'est assez enthousiasmant, que ce n'est pas une fois pour toutes, mais que c'est continuellement que dans l'éternité, la foi se transforme en vue et l'espérance en possession. Pour quelle raison? Nous l'avons dit ce matin. Dieu n'est-il pas infini dans tous ses attributs? Il y a donc matière à voir et à posséder. Alors, oui, moi je trouve que c'est enthousiasmant parce qu'il y aura des découvertes tout au long de l'éternité et pas une vérité donnée une fois et figée une fois pour toutes pour l'éternité et l'éternité et l'éternité et l'éternité. Il y aura des découvertes et des émerveillements tout au long de l'éternité, pas simplement un état figé. Alors, Paul nous dit que l'amour n'est pas la plus durable de ces trois vertus, mais il est divin par nature, car Dieu est amour. Et un commentateur se risque, il dit, Dieu n'a pas besoin de foi ni d'espérance, Dieu ne croit pas, il n'espère pas, Dieu aime. Dieu est amour. Alors l'église de Corinthe était visiblement l'église des records, cultivant christianisme de prouesse, en particulier dans le domaine de l'extase et des expériences spirituelles. Alors nous sommes assez éloignés de ces prouesses, n'est-ce pas? On devrait même veiller, pour reprendre un bon mot de la semaine dernière, de ne pas battre des records de somnolence. Alors, que veut nous dire Paul, et au travers de lui, que veut nous dire le Seigneur par ses versets? Investissez dans le durable. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons les meilleurs. Les dons les meilleurs, ce sont ceux qui manifestent l'amour. Ce sont ceux qui sont motivés par l'amour. Alors, frères et sœurs, sur le chemin le plus excellent ou sur le chemin de l'excellence, lançons-nous à la poursuite de l'amour. C'est une valeur éternelle. L'amour ne succombera jamais. L'amour n'aura jamais de fin. C'est un investissement sûr. Amen.